Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre deux Mers 98.4 FM www.r2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien.
Et bienvenue sur nos ondes pour nous présenter les films de la semaine, les films qui sortent cette semaine dans les salles obscures.
Oui, les salles obscures et chaudes ou fraîches selon la saison. Et bonjour mes chéris, malheureusement Damien, t'as pu remarquer que ma voix est toujours aussi mauvaise.
Ça ne se guérit pas. Ça c'est le refroidissement ambiant.
Voilà, ça ne se guérit pas en 8 jours malheureusement. Donc, j'ai toujours Et moi ça tombe sur les cordes vocales mes chéris, je suis désolée. Ça fait une voix un petit peu grenouille un peu, non ? Je sais pas, un petit peu comme ça. Eh bien, on va commencer par une animation. Oui, c'est pour la famille, c'est une comédie, et puis c'est britannique, et ça s'appelle Shaun le mouton, le film, La ferme contre-attaque. Et je sais que ma petite copine Naya est allée voir le film avec son petit frère Lee Wen. Bravo ! Oui, ils sont déjà allés le voir, c'est formidable. Et oui. Et donc, cette histoire de Shaun, donc le mouton, c'est Objectif Laine, hein, on commence comme ça, Shaun le mouton revient dans une aventure.
C'est le deuxième long métrage autour de ce petit mouton.
Oui, absolument, c'est le deuxième long métrage, et oui, ce petit mouton. Et donc Shaun le mouton revient, c'est pour ça qu'ils nous disent « revient dans une aventure intergalactique ». Un vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature prénommée Lula, jeune extraterrestre. Et oui, elle est mignonne comme tout, avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure et ses rots venus d'un autre monde. Elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu'une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque. Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider Lula à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures, mes amis, et préparez-vous pour une épopée à se tondre de rire. Oh, 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 le jeu de mots. Il n'est pas de moi, hein. Oufou ! Là, non, moi, mes chéris, j'aurais pas osé. Enfin, à se tondre de rire. Voilà. C'est un film. Alors, c'est une co-réalisation de Will Becher et Richard Phelan. Alors, ils sont tous les deux britanniques. Voilà. Ils sont animateurs, ils sont directeurs de l'animation, réalisateurs, évidemment. Donc ils ont, en fait, le premier Shaun, le film dont tu me parlais, Damien, tu nous parlais, il est sorti en 2015. Il avait eu 5 nominations quand même. Hein. Il avait beaucoup plu, ça a été un gros, gros, gros succès. Alors elle est, en fait, la petite Lula, la jeune extraterrestre, on dit d'elle qu'elle est très souple, qu'elle se déplace à une vitesse incomparable et qu'elle a de grands yeux ronds. Voilà. Alors, ils nous disent aussi, les réalisateurs là, nous disent que son nom est un hommage au 50e anniversaire du premier homme qui a marché sur la Lune, qui a été fêté en juillet 2019. Lula, l'alunissage. Lula. Donc, c'est une petite finesse des réalisateurs. C'est mon petit coup de cœur, moi, franchement. Alors, la caractéristique de Shaun, c'est qu'il ne parle pas. Or, il avait été dit, dans les couloirs, à l'époque, avant le tournage justement de ce film, que peut-être on allait donner la parole à Sean. Eh bien non, finalement, il a été décidé que non, parce que justement, c'est comme ça qu'on l'aime. Eh oui, donc, toujours pas de parole pour Sean. Voilà, ça dure 1h30. Et oui, oh, ça vaut la peine parce que c'est vraiment joli, 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 joli comme tout. Je ne sais pas si on avait... non,
oui, est-ce que tu avais quelque chose? Oui, on peut écouter une
bande-annonce. Bah, oui.
Sean le mouton est de retour. Et il va faire une rencontre.
Oh.
D'un autre monde. Lula va découvrir que la Terre est pleine de saveurs. Mais Lula est loin de chez elle. Et elle est en danger. Pour la ramener sur sa planète, Sean et ses amis vont devoir être plus malins que les autres. Alors, interdiction de se tourner les pouces. Pas question de se faire repérer. Il faudra rester... soudé. Les créateurs de Chicken Run et Wallace et Gromit vous embarquent... dans une aventure intergalactique. Et hors du commun. Sean le mouton, la ferme contre-attaque. Le 16 octobre au cinéma.
Voilà, ça sort aujourd'hui donc.
Donc c'était elle est mignonne comme tout d'ailleurs, la petite extraterrestre, là, c'est vrai qu'elle est mignonne. Ensuite, ben, j'ai une autre animation française et belge, celle-là, qui s'appelle Loup. Les loups, hein, loup au pluriel, tendre et loufoque. Ah, alors là, c'est à partir de 3 ans. Ah là là. Alors ma petite copine Naya, va emmener son petit frère Liwen, parce que j'en suis sûre, à partir de 3 ans, il n'y a pas de souci, ils vont y aller tous les deux. Oh oui. Des loups, en veux-tu? En voilà. Ils roulent des mécaniques. Ils s'imaginent régner sur tous les autres animaux. Mais au fond, c'est bien connu. Les loups ont tous un cœur d'artichaut. 6 courts-métrages pour découvrir toutes leurs facettes dans une large palette de techniques d'animation. Voilà, c'est Arnaud Demuynck qui présente d'ailleurs ces 6 courts-métrages. C'est un Belge, hein, réalisateur, scénariste, producteur. Il est producteur dans de courts et moyens métrages en fait d'animation depuis très longtemps. Il a 53 ans. Et c'est voilà, il produit toujours des trucs très jolis. Arnaud Demuynck. Il est connu pour ça d'ailleurs. C'est mignon comme tout. Voilà. Il produit quand même 5 à 6 films par an, hein, en moyenne. Arnaud Demuynck. C'est vraiment son truc, ça. Ça dure 0h52, c'est-à-dire 52 minutes. Ensuite, hein, loup tendre et loufoque, hein, j'ai dit, oui. Ensuite, j'ai une autre animation. Bah alors, on plonge dans les animations.
Il y a pas mal en ce moment.
En ce moment, voilà, très bien, tant mieux. C'est la rentrée en plus, tant mieux. Alors, c'est animation comédie, hein, bon, voilà, c'est pour... C'est pareil, c'est famille, hein, c'est américain, ça s'appelle Angry Birds. 2 points. Cotin, copain. Pourquoi cotin? Copain comme cochon. C'est les Angry Birds, ça veut dire les oiseaux en colère. Hein, voilà, donc c'est quand même, ça parle d'oiseaux probablement. Hein, voilà. Les oiseaux et les cochons continuent de se battre. Et oui, pourquoi disent-ils continuent de se battre? Parce que, on vous en avait parlé ici. En 2016, il y a eu un Angry Birds aussi qui est sorti, qui durait d'ailleurs 1h38, c'est à peu près le même... et qui était avec les voix d'Omar Sy et d'Audrey Lamy. On en avait parlé. Donc c'est et dans ce film, là, Angry Birds, celui de 2016, justement, il y avait des histoires avec les cochons. Ça bardait. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on nous dit que les oiseaux et les cochons continuent de se battre, sans relâche. Voilà. Mais la menace d'un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l'aigle vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck, et s'associent au cochon Léonard, son assistante Courtney et Gary le geek pour former une équipe improbable et tenter de sauver leur foyer. Ah, voilà! L'union fait la force, c'est bien ça. Donc, les ennemis, les voisins ennemis, cochons, oiseaux, eh ben, ils vont être obligés de s'allier pour se défendre et sauver leur foyer. Voilà. Ben, comme dans la vie, hein, c'est bien de temps en temps de se rapprocher des gens avec qui on se dispute pour pouvoir faire des choses bien, quoi. Voilà, c'est bien aussi ça. Mais c'est ce qu'on voit dans ce film, c'est plutôt... Hein, la morale est plutôt belle. C'est un film de Turop von Ormann. Alors, Turop von Ormann, c'est un acteur, il est réalisateur, créateur, dessinateur, il est très auteur de télévision aussi, hein, il fait beaucoup de choses à la télévision. Il produit aussi, c'est un producteur américain, il a 43 ans, il fait des jolies choses. Alors, on a Karine Viard, hein, voix française Karine Viard, qui s'est lancée dans le Angry Birds, copain comme cochon. 1h37, hein. L'autre, le premier, faisait 1h38. Voilà, bon, ils ont juste enlevé une petite minute. C'est bon, voilà, Angry Birds. Ensuite, alors là, je passe à une comédie française. La vérité si je mens, point d'exclamation, les débuts. Ah oui, alors là, pour comprendre, au début, moi, j'ai un petit peu patiné, parce que je me disais, mais attends, La vérité si je mens, il y en a déjà eu, ça. Ah, mais voilà, La vérité si je mens, ce film-là, c'est avant tout ce qu'on sait déjà, tout ce qu'on a vu déjà, hein, puisqu'on les a déjà vus. Alors, j'ai regardé, en 1997, on a vu La vérité si je mens. Hein, avec Richard Anconina, Vincent Elbaz, Bruno Solo, José Garcia, Gilbert Melki, Oratica, Amira Kazar. C'était un film de Thomas Gilou. Et puis en 2001, on a vu La vérité si je mens 2. Encore Thomas Gilou. Et il y avait à la place de Vincent Elbaz, on avait Gad Elmaleh. Et puis en 2012... La vérité, si je mens, 3 est sortie toujours de Thomas Gilou, avec Anconina, Solo, Garcia, Vincent Elbaz qui revient en fait dans le troisième, Gilbert Melki, etc. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que celui-là ? Eh bien, celui-là, c'est tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire les personnages beaucoup plus jeunes. Avant tous ces films-là, avant qu'ils deviennent des adultes, ils ont été des très jeunes. Avant qu'ils deviennent des très adultes, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. C'est quand même assez... bon. Au début des années 80, voilà, donc c'est bien avant, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dove, c'était bien donc Vincent Elbaz, hein, Dove après dans les autres, dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le sentier, tout en séduisant la femme de son patron. Yvan prend de l'assurance au fil des épreuves professionnelles et Serge ne cesse d'inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac. Donc, en fait, ce qu'on a vu dans les vérités, si je mens, les trois autres, avec des personnages quand même qui avaient déjà un certain âge, bah, finalement, ils étaient déjà comme ça jeunes. Ce qu'ils sont dans ces films-là, c'est-à-dire un peu menteurs, un peu roublards, un peu manipulateurs, un peu coureurs, etc., etc., que des qualités. On les retrouve effectivement jeunes. C'est la même chose, quoi. Ils étaient déjà comme ça, en fait, hein. Donc cette fois, ce n'est pas Thomas Gilou qui s'est mis au boulot. C'est une co-réalisation de Michel Munz et Gérard Bitton. Alors Michel Munz, c'est un réalisateur, scénariste, compositeur. Il a fait la musique du film d'ailleurs. Français, il a 57 ans. Et Gérard Bitton est un réalisateur, scénariste, dialoguiste français de 57 ans également. Ils ont eu déjà des nominations. Hein, tous les deux, ils ont eu 3 nominations. Déjà, c'était en 2009, c'était pour Erreur de la banque en votre faveur, le film, voilà, qui avait été nominé avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin et Barbara Schulz dans les rôles principaux. Donc, alors ils ont remis le couvert, hein, finalement tous les deux, Et là, on a dans les... Alors, Patrick Abitbol, c'est Johan Manka. Dove, c'est Michael Lumière. Anton Escazar, c'est Serge. Yvan, c'est Jérémy Lewin. Alors, on a Henri Abitbol adulte. On l'a, c'est Gilbert Melki. Hein. C'est le seul, d'ailleurs, qui est dans ce film, qui joue le rôle du père. En fait, il est le père de lui-même, en fait, dans le... C'est l'acteur, je veux dire. C'est quand même assez curieux d'être le père de son fils et d'être dans le bon. Ben voilà. On a Audrey Dana aussi. On a François Berléand. On a Jean-Charles Deval hein, dans les rôles principaux. C'est quand même un casting sympathique. Bon, pour les autres, pour les jeunes, là, on les connaît beaucoup moins. Donc, on va les découvrir, là. Johan Manka, Michael Lumière, Anton Cazar et Jérémy Lewin. On va les découvrir là dans ce film. Ma foi, j'ai eu du mal au début, hein, parce que je me demandais sur quoi je tombais là. Puis finalement, non, bah c'est assez simple. C'est un préquel, ça s'appelle. Ça s'appelle comme ça, un préquel. D'accord. C'est la préquel. En fait, le préquel, c'est une œuvre dont l'histoire précède celle d'une œuvre antérieurement créée. Voilà. Donc c'est le quatrième opus en réalité. Et oui, alors le Gérard Bitton et Michel Munz, ils ont voulu proposer quelque chose de nouveau compte tenu du fait qu'ils avaient éprouvé un sentiment de routine sur La vérité, si je mens, 3. Ils trouvaient, bon voilà. Hein. Alors avec la production, ils ont réfléchi à la suite de l'aventure et c'est comme ça que l'idée du préquel a vu le jour. Les Américains font beaucoup hein, de préquels, effectivement. Ils en font beaucoup, eux. Ils sont très portés là-dessus. Beaucoup moins, nous, en France, hein, on fait ça. Si c'était... il y avait... Comment il s'appelle on a un grand metteur en scène, là, qui est assez adepte de préquel aussi. Oh, mince. Caméra à l'épaule. Bon, c'est pas vrai. Un homme, une femme.
Oui, oui, oui. Lelouch.
Merci. Merci. Qui, lui, il serait assez, quand même, lui, pour le préquel. Hein. Mister Lelouch. Oui, oui, ben, c'est ça, oui, voilà. Ben, donc, alors c'est...
Est-ce qu'on écoute la bande-annonce ?
Ah bah oui, si tu veux. Allez, on écoute la bande-annonce, absolument.
Sergio, à gauche, elle arrête pas de te mater, là.
Excuse-moi, tu serais pas Serge Benamou ?
Ça a pas changé.
La vérité, mademoiselle, il changera jamais.
La vérité,
mademoiselle. La vérité !
Ah, la vérité, si je mens.
Yala !
Histoire, géographie, élève sérieux.
Le bonheur que tu donnes à tes parents, mon fils.
Bon, c'est pas facile, mais je m'accroche.
Il y a FA philosophie.
Bien sûr qu'il y a FA, c'est du grec.
Patrick.
La caisse de ton magasin, c'est pas ton argent de poche.
T'inquiète pas, je remets tout demain.
Je te donne ma parole que c'est la dernière fois.
Je bosse comme un malade maintenant.
C'est pour ça que t'es encore en pyjama à midi moins 20.
Ah, oui.
Ma femme, elle veut te parler.
Allô.
J'ai envie de quoi?
Bien sûr, à la Finkelstein.
Putain, mais y'a que moi qui bosse ici!
Y'a une cliente qui veut pas payer ses pénalités de retard.
Elle est où ta chaise? Je vais te montrer moi comment ça marche.
Elle a 10 jours de retard.
Et alors, tu travailles à la poste?
Attends, je crois pas, c'est ta caisse ça!
Bah ouais, quoi, je suis un patron, faut bien que ça se voit.
Prendre un appartement, mais pourquoi? T'as rencontré quelqu'un, c'est ça?
Je te le dis tout de suite, c'est pas la peine de compter sur nous. Je financerai pas un bésodrome pour mon fils!
Ouh, dame!
Elle est bonne, sa mère!
C'est pas sa mère.
Ah bon?
Il est pas là, Benamou!
Mon pauvre garçon, vous auriez dû demander une dispense pour raison médicale.
J'aurais tellement voulu aller à la fac.
Il vous manque combien de points?
On traque?
À l'amitié.
À la famille.
Yalla!
Oh yalla, mais comment je l'ai niqué! Je l'ai retourné comme une crêpe. Je suis un peu plus à pleurer sa mère. J'ai même cru qu'elle allait me filer la mention.
Et oui, toujours Serge et sa maladresse.
Oui, c'est les, ils vont faire, c'est les mêmes en fait. Hein, quand on les, nous on les connaît adultes dans les films qu'on a déjà vus, enfin les spectateurs.
C'est ça. Et là on les voit c'est les post-adolescents.
Les défauts sont les mêmes, sauf qu'ils s'étaient un petit peu accentués avec l'âge, si j'ose dire. En fait, c'est quand même, j'ai découvert que les trois films, les trois premiers, ont quand même attiré 17 millions de spectateurs. Hein.
Et oui.
17 300 000 d'ailleurs, beaucoup plus que 17, de spectateurs. Donc ça veut dire que ça a bien marché quand même. Hein. Alors bon, bah, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que celui-là marchera bien aussi. Pourquoi pas hein. C'est quand même assez, c'est marrant. Alors il y avait, Vincent Elbaz avait proposé, il avait proposé en fait de jouer le père. Le père, il voulait bien jouer le père de Dove, sauf que c'était pas possible parce que le personnage est orphelin.
Ah oui, donc c'est compliqué.
Donc c'était pas la peine.
Il avait oublié.
Je crois que Vincent Lebas avait oublié, oui. Mais il s'était proposé quand même, ce qui était, c'était assez sympa de proposer d'apparaître comme ça, parce que c'est quand même des acteurs confirmés et c'est pas toujours évident d'apparaître juste dans un film, voilà, comme va faire, comme fait Gilbert Melki, quoi, par exemple. Bien, eh ben écoutez, hein, mes chéris, si vous voulez vous amuser, hein, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai dit que ça durait 1h50 ? Non, je ne l'avais pas dit, voilà. Quand même, la vérité, si je mens. Alors ensuite, ensuite je suis tombée sur un film fantastique. C'est de l'aventure, c'est pour la famille, hein, oui, aussi. C'est américain, ça s'appelle Maléfique, 2. Le pouvoir du mal. Alors on avait déjà eu une Maléfique, hein. Ben c'est la même d'ailleurs, hein. C'est une sorte de suite en fait de Maléfique. Maléfique était sorti en mai 2014, avec Angelina Jolie, c'est elle qui joue Maléfique, et Aurore, la princesse Aurore, c'était Elle Fanning. Il y avait Sam Riley dans le film aussi, et on les retrouve, hein, c'est pour ça que je cite leur nom, on les retrouve dans le film dont je vais vous parler. On a Imelda Staunton aussi, qui réapparaît aussi dans ce deuxième film. Donc, je ne sais pas si on se souvient, c'était une maléfique, voilà. C'est une belle jeune femme, au cœur pur, qui mène une vie idyllique au sein d'une paisible forêt, dans un royaume où règne exactement bonheur et harmonie, etc. Et en fait, elle va être... ça va mal se passer pour elle, et elle va transformer, son cœur va se durcir, etc. Voilà, et elle va devenir maléfique, quand même plutôt méchante. Voilà, ça peut arriver aussi, ça, quelqu'un de gentil qui devient méchant à cause de ses malheurs. Alors là, Maléfique, le pouvoir du mal, c'est plusieurs années, ça se passe plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui l'avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore. C'est ce que je viens de dire, hein, tous les malheurs qu'elle avait vécus, toutes les attaques, elle n'avait qu'une envie, c'était de se venger. Donc voilà pourquoi elle était devenue méchante. Ça, on l'avait déjà compris. Et Maléfique, le pouvoir du mal, continue d'explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu'elle noue d'autres alliances et affronte de nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leur terre et les créatures magiques qui les peuplent. Voilà, donc on retrouve, c'est ce que je disais, hein, Angelina Jolie, Elle Fanning, Sam Riley. Alors on a en plus, qui arrive là, on a Michelle Pfeiffer, qui n'était pas dans l'autre, hein, qui joue la reine Ingrid. Et on a Ed Skrein qui n'y était pas non plus. Harry Dickinson joue le prince Philippe. Et il remplace Brenton Thwaites, qui était dans l'autre film, parce que Brenton Thwaites était occupé sur le tournage de la série Titan. Donc il ne pouvait pas faire les deux. Et c'est Harry Dickinson qui s'y est collé, du coup. Alors, c'est Joachim Rønning, le réalisateur, scénariste, producteur délégué. Il est norvégien. Et c'est là, voilà. Donc, c'est bien la suite du premier. Ça dure 1h58, je l'avais peut-être déjà dit. Et si vous aimez Maléfique, si vous aimez Angelina Jolie, si vous êtes touché par Elle Fanning, Aurore, la princesse, eh bien, allez voir la suite si vous avez aimé le premier. Moi, j'avoue, mes chéris, que j'ai aimé le premier. Voilà. Alors, je veux le deuxième, bien sûr. Mais j'ai bien aimé le...
Et on écoute la bande-annonce.
Il y a des très bons acteurs, en même temps.
Il y a 5 ans, j'ai cru vous Merci. Avoir perdu pour toujours. Plus aucun sort ne pourra nous séparer. Voulez-vous m'épouser ?
Oui.
Maîtresse, j'ai des nouvelles.
Tais-toi ! Ne viens pas gâcher ma journée.
Le prince Philippe veut m'épouser.
Non.
Je ne demandais pas votre accord.
Je ne demande rien non plus. Les histoires d'amour finissent toujours mal, Mojde.
S'il vous plaît, laissez-nous vous prouver le contraire.
Vous
Vous êtes allé à l'encontre de votre nature avec une force admirable pour élever cet enfant. Mais aujourd'hui, elle mérite de connaître enfin le véritable amour d'une mère. Ce soir, Aurore devient mon enfant.
Il n'y a pas d'union possible, il n'y aura pas de mariage.
Qu'avez-vous fait?
Rentrons à la maison. Aurore!
Maléfique est une menace pour chacun de nous. Nous ferons de notre mieux pour te protéger.
Voyez-vous ça?
On n'est jamais assez prudent.
Tu ne sais rien de moi.
Impressionnant, musique.
Ah oui, il y a de l'action dans les contes de fées maintenant.
Le rire de Maléfique, ça ressemble pas à celui de Joker dans le film de
Vous avez passé des
Mais c'est pas loin quand même, hein. Il est pas loin quand même, son rire. Elle a sûrement des soucis aussi dans les dans les neurones. Là, il y a sûrement des problèmes.
Voilà, Maléfique, oui, donc Maléfique. Le pouvoir du mal.
Mais chérie, si vous avez aimé le premier, faut aller voir le deuxième. Hein. Bon, voilà, c'est la suite directe. Et bon, le premier ayant, il a très très bien marché le premier. C'est un gros succès. Voilà pourquoi ils font le deuxième. Hein. Mais bon, Michelle Pfeiffer qui est rajoutée, est une grande actrice, quand même, une grande comédienne. Elle a un rôle assez extraordinaire dans ce film. Voilà. Ensuite, on va passer directement à un drame français, centrafricain. Voilà. Ça s'appelle Camille. Il y a un avertissement, par contre. Hein. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Pour Camille, jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas. C'est un film de Boris Lotchkine. Boris Lotchkine, c'est un acteur, réalisateur, scénariste français. Il a 50 ans, il avait déjà eu un prix d'ailleurs. En 2014, il avait eu un prix, lui. Et là, il a 2 nominations au Festival du film francophone d'Angoulême 2019. C'est la République centrafricaine, en fait, pour situer un peu, hein, puisque ça se passe là-bas, est un pays d'Afrique centrale en voie de développement. Alors actuellement, il y a 4 500 000 habitants. Il y a une superficie de 623 000 km carrés. J'ai trouvé ça assez fascinant quand même. La capitale, c'est Bangui. On a tous entendu parler au moins une fois comme ça de Bangui. Mais je voulais voir un peu, je ne pensais pas que c'était si peu peuplé quand même. Eh oui, mais oui, moi, enfin, vu la superficie, ouais. Donc, on a dans ce film, dans les acteurs, on a Nina Meurice, on la connaît déjà. Quand on la voit, on la reconnaît, on a l'habitude d'aller un peu au cinéma. On a Bruno Todeschini aussi, on le connaît aussi, lui. C'est un homme de théâtre. Il a fait beaucoup de théâtre, il fait beaucoup de théâtre, mais il fait aussi du cinéma, on le connaît. Très, très, très talentueux. On a Grégoire Collin, Fiacre Bendala. Alors, Fiacre Bendala, c'est un acteur centrafricain. Voilà, il y en a très peu là-bas. Il est connu, bien sûr. Il est tout à fait remarquable dans ce film, d'ailleurs. Alors, le 12 mai 2014, Camille Lepage, 26 ans, seulement l'héroïne, accompagnait un groupe de miliciens anti-Belaka sur lesquels elle réalisait un reportage photo. Ils circulaient en moto et sont tombés dans une embuscade dressée par un groupe opposé, les Séléka. Camille a été tuée sur le coup. La carrière de photographe de Camille Lepage n'aura donc pas été très longue. Quelques semaines au Caire en plein printemps arabe, puis un an au Sud-Soudan, pendant lequel elle travaille pour l'AFP, avant de devenir indépendante et finalement la Centrafrique, où elle a passé un peu moins de 8 mois. Aujourd'hui, 5 ans après la mort de Camille, l'enquête piétine. Aucune reconstitution des faits n'a été réalisée à ce jour. Le dossier d'instruction, un temps perdu à Bangui, a été finalement retrouvé. Mais la perspective d'un procès reste incertaine. Malgré tout, la famille Lepage continue à se battre pour que l'affaire ne soit pas enterrée et qu'on puisse au moins identifier avec certitude le groupe responsable de l'attaque. Voilà. Donc c'est en fait pour Boris Lochkin, le réalisateur, Camille, ce n'est pas un biopic au sens ordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire, nous dit-il, d'une immense artiste. Lorsqu'elle est morte à 26 ans, Camille ne faisait de la photo que depuis 2 ans. Elle a très vite progressé, elle était devenue une bonne photographe. Elle commençait à trouver son style. Mais son œuvre était encore à venir, elle n'a pas eu le temps. Camille est un récit d'initiation, le film Camille. C'est l'histoire d'une jeune femme idéaliste qui rêve de devenir photojournaliste pour venir en aide à des populations. Des populations oubliées d'ailleurs. Mais en Centrafrique, Camille se retrouve confrontée à une violence à laquelle elle n'est pas préparée. Comment raconter que des gens se mettent à couper leurs voisins à la machette quand on croit à la bonté de l'humanité? C'est ce qu'il nous dit. Hein, c'est, voilà. Donc il a effectué pour écrire le scénario du film, le réalisateur a effectué un long travail d'enquête. Eh oui, c'est sûr que... Il a choisi... Ah oui, Nina Meurice, pourquoi il l'a choisi? Parce qu'il dit que Nina porte en elle ce mélange de naïveté et de détermination qui est pour moi la définition du personnage. C'est ça, Camille, le personnage, elle est naïve et en même temps elle est déterminée. C'est ça le... Et il a trouvé ça chez Nina Meurice. Voilà, donc c'est un très beau film. Peut-être que certains d'entre vous, je ne sais pas toi Damien, moi je ne connaissais pas trop cette histoire. J'ai lu un peu tout ce qu'il y avait sur elle, sur cette jeune femme morte si jeune. Mais vous, mes chéris, vous connaissiez peut-être, je ne sais pas, cette jeune femme, Camille Lepage, peut-être que vous en aviez entendu parler. En tout cas, ce film est pour elle, il est sur elle et pour elle, quoi. Voilà. 1h30. Ensuite, j'avais un drame canadien. Bah oui, là, je fais dans les drames, bon. Mathias et Maxime, deux amis d'enfance, s'embrassent pour les besoins d'un court-métrage amateur. Suite à ce baiser d'apparence anodine, un doute récurrent s'installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et bientôt leurs existences. C'est un film d'un cinéaste, alors le surdoué du cinéma mondial, à mon avis, Xavier Dolan. Voilà, parce qu'il a quand même 30 ans, hein, Xavier Dolan. Il a déjà eu... Alors, on reste assis quand même et on n'est pas jaloux de lui. Il a eu 13 prix et 63 nominations. Chaque fois qu'il sort un film, il n'y a rien à faire, quoi. Bon, Mathias et Maxime, c'est 12 nominations au Festival de Cannes 2019, plus une nomination au Festival du film de Cabourg, Journée romantique. Enfin bref, c'est encore une réussite de ce jeune cinéaste surdoué. Là, on peut le dire quand même. Hein. Il a commencé, il avait à peine passé 20 ans, je crois. C'est quand même assez... Alors, il est dans le film, c'est lui qui joue le rôle de Maxime, Xavier Dolan. Il y a Gabriel D'Almeida, c'est Mathias. Non, c'est pas Gabriel D'Almeida, c'est D'Almeida Freitas. Gabriel D'Almeida Freitas. On a Anne Dorval, c'est une actrice un peu fétiche hein, pour Xavier Dolan.
Une habituée de Dolan.
Oui, une habituée. On a Pierre-Luc Funk, Samuel Gauthier dans les rôles principaux. Ah oui. Il est... oui. Alors, Xavier Dolan nous dit... il apparaît dans ce film parce que ça faisait un petit moment hein, qu'on ne l'avait pas vu. Il est derrière la caméra d'habitude, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu aussi devant la caméra. Donc là, il est là. Alors, il nous dit que j'ai par amour, cherchant à remédier à un sentiment d'imposture, fait un fou de moi plus souvent qu'à mon tour. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà, il nous dit aussi « Le succès s'accompagne d'isolement et avant que j'aie pu m'en rendre compte, j'étais, après avoir franchi mon premier quart de siècle, seul les trois quarts du temps. » En plus, il a une façon de s'exprimer quand il est interviewé. Il est assez extraordinaire, même dans sa façon de parler. Mais depuis quelques années, nous ajoute-t-il, j'ai vu se poser sur ma route quelques personnes qui, se trouvant au bon endroit au bon moment, sont devenues pour moi des phares. Je les ai laissées entrer chez moi et elles ne sont plus reparties. J'ai donc pu ces derniers temps découvrir, redécouvrir des humains avec qui, avant d'être réalisateur ou scénariste, j'ai pu être moi-même. Ce que j'ai donné et parfois perdu en amour avec eux, je l'ai retrouvé. Je crois qu'au fond, davantage que de faire des films, dans la deuxième moitié de ma vingtaine, je me suis fait des amis. Mathias et Maxime parlent d'amitié comme celle-là. Là, il a tout dit, là. C'est, voilà, c'est quand même ouf. Oui. Voilà, il a présenté donc son film en 2019 sur la petite croisette. Enfin, la petite croisette. Quand je dis la petite, la grande croisette devant le tapis rouge. Voilà. Ah ben oui, il a retrouvé donc Anne Dorval, qui jouait dans deux, trois autres films déjà, dans J'ai tué ma mère, Les amours imaginaires, etc. Momie, enfin tout ça, elle est dans tous ces films. Il faut dire qu'elle est quand même... c'est une grande actrice, hein. Là, il ne fait pas n'importe quoi. Il choisit des gens aussi qui collent bien, qui collent à ses films aussi. Il est doué aussi pour ses castings, hein, Xavier Dolan. Il est reconnu pour ça aussi, quand même. Donc, Mathias et Maxime, ça dure 1h59. Petit chéri, si vous êtes fan de Xavier Dolan, pas d'hésitation, quoi. Mathias et Maxime, c'est pour vous. Et puis, ah oui, j'ai un biopic, drame, comédie, voilà, c'est français, il y a les deux. C'est Fahim, ça s'appelle Fahim. Fahim, c'est un prénom, hein, voilà. Donc tout de suite, on le sait tout de suite, forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l'asile politique, avec la menace d'être expulsé à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, les jeux d'échecs, Fahim rencontre Sylvain, l'un des meilleurs entraîneurs d'échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et à se lier d'amitié. Alors que le championnat de France commence, la menace d'expulsion se fait pressante et Fahim n'a plus qu'une seule chance pour s'en sortir, être champion de France. Champion d'échecs, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est quand même pas donné à tout le monde. Alors, c'est un film de Pierre-François Martin Laval, qu'on connaît absolument, bien sûr.
Sous le surnom PEF aussi.
Oh bah oui.
C'est un ancien Robin des Bois.
Voilà, voilà. Acteur, scénariste, réalisateur français, il a 51 ans, j'espère qu'il va bien continuer. Son film a eu une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême 2019. Il avait eu aussi déjà deux prix en 2006 pour Essaye-moi. Alors Essaye-moi, c'était avec Julie Depardieu, Pierre Richard, Cadmerade, et c'était assez savoureux quand même. Hein. Les prix étaient mérités. Alors dans ce film, on a Assad Ahmed, c'est justement lui qui joue Fahim. On a Gérard Depardieu, mais oui. Et Gérard Depardieu, c'est qui? Eh bien c'est Sylvain, celui que Fahim va rencontrer et qui va peut-être lui sauver la mise. Je dis peut-être parce que je ne veux pas raconter le film.
Il ne faut pas.
Ah, bah si vous voulez savoir, il faut aller voir le film. Et puis, il y a Isabelle Nanty, qu'on connaît absolument, Isabelle Nanty. Moi, j'avoue, j'ai un faible pour cette actrice. Là, j'avoue que franchement, quand elle est dans un film, je suis assez contente de la voir. Je trouve qu'elle a énormément de talent. Bon, ben bah voilà, c'est pas... Alors oui, bon, ben... Bah, c'est Pierre-François Martin Laval, c'est long hein, à dire. Hein. Il a. Alors, c'est par des images d'archives que commence le film. Hein. C'est parce que c'est ce souci de vérité qui a guidé justement le réalisateur. C'est pour ça que ça débute par des images d'archives. Comme ça, on voit évidemment ce qui est arrivé, on voit exactement. Et elle, alors, en fait, les images d'archives sont là pour dire la vérité, quoi. Et puis surtout la réalité de la violence qui gangrénait le Bangladesh au début des années 2000. C'est ce qui explique que Fahim et son père aient fui le pays justement, hein, et qu'ils aient fui leur famille. C'était que à cette époque-là, le Bangladesh, c'était terrible, ça devenait invivable. Parce que le réalisateur voulait que les spectateurs comprennent justement hein, cette fuite. On part pas comme ça d'un pays, on quitte pas sa famille pour rien. C'est pas pour l'aventure. La plupart du temps, c'est parce qu'on ne peut plus rester dans ce pays. Alors, il nous dit qu'il a adoré fabriquer cette partie du film. Voilà, il a incorporé les images de la famille d'Assad. Enfin, voilà, il a adoré faire ça. Et nous, on adore voir ça, d'ailleurs, parce que c'est vraiment très, très bien fait. Alors, il nous dit aussi, bon, ben ça, voilà, c'est un petit aveu. Malgré sa volonté de s'en tenir aux faits, Pierre-François Martin Laval a été contraint de tricher, entre guillemets, un peu, entre parenthèses, avec eux. Pour des raisons évidentes de tournage, le metteur en scène n'avait qu'un seul comédien pour jouer Fahim. Il a notamment dû ramasser, entre guillemets également, hein, son histoire française sur un an et demi, alors qu'en réalité, le héros a vécu 3 ans et demi dans la rue. Et oui, donc il a resserré tout ça, ramassé tout ça. Le personnage, en fait, il nous dit aussi que le personnage d'Isabelle Nanty est en fait la réunion de deux personnages existants. Celui de cette femme formidable impliquée dans le club d'échecs qui avait accueilli Fahim et celui d'une autre femme non moins formidable qui, le 14 mai 2012, sur l'antenne de France Inter, a demandé en direct à François Fillon, alors Premier ministre, s'il trouvait normal qu'un enfant surdoué ne puisse pas participer à un championnat de France sur ce seul motif d'être dépourvu de papier d'identité. Il nous dit, le réalisateur nous dit, il m'a semblé que cette séquence qui fut à l'époque beaucoup relayée par les médias, serait plus forte, plus touchante cinématographiquement si le spectateur connaissait déjà celle qui en était l'instigatrice, d'où l'idée de l'attribuer à la patronne si maternelle du club d'échecs de Fahim. Il y a des gens formidables quand même. Mmh. Finalement, il y a des gens formidables. C'est vrai. Il y a plein de gens
Ça
formidables.
Ça permet de garder foi en l'humanité.
Ouais, ouais. Voilà, exactement. Des gens comme ça, oh, ça te donne un courage, ça te donne, hein, mes chéris, quand même, franchement, des gens comme ça. Hein, ça donne vraiment, comme tu dis, ça donne foi dans l'humanité, ça donne beaucoup de courage pour vivre dans un monde qui n'est pas toujours, toujours très facile. Hein, c'est Fahim, oh, il faut aller voir ce film, moi je le veux.
Et on écoute la bande-annonce.
Absolument, oui, merci, oh Fahim.
Qu'est-ce qu'il veut, lui ?
Fahim.
I want to be champion of the world.
Bienvenue à France Terre d'Asile.
Il y a un nouveau.
Tu devrais essayer les échecs, je suis sûre que ça te plairait.
Les échecs, c'est toute sa vie.
C'est un jeune immigré.
Il est super fort.
Il est un petit peu dur.
Tête d'huître.
Ça a pas de tête, une huître.
Un bourru, quoi.
Fais chier, oh ! Les échecs ne sont pas un jeu, monsieur Fahim. T'es mort.
Regarde la pochette à la mer, Kébouna !
Pas de bonne idée. Je devrais faire pareil avec certains.
Pourquoi vous êtes si dur avec Fahim ?
Fahim, il m'écoute pas. Il joue seulement avec sa rage.
On a comme un poisson de demain.
Monsieur Mouhamad, vous êtes en situation irrégulière sur notre territoire, monsieur.
Tu m'as cargo, tu sais ?
Fahim, tu m'as glonné, c'est glonné.
Le championnat de France, imaginez les colonnes, les diagonales, visualisez. Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde.
Ça déchire.
Vous aviez un délai d'un mois pour quitter la France, vous partez en centre de rétention.
C'est dommage pour les championnats de France, mais tu connais le règlement, c'est bien.
Notre papier, c'est l'échiquier.
Donne-lui sa chance. J'ai vu de la passion. J'ai vu des nains devenir des géants.
On va pas rester ici les bras croisés quand même. À vous ?
Voilà, Fahim.
Très beau film. C'est mon coup de cœur quand même aussi. C'est 1h47, hein, je sais pas si je l'avais dit. Oui, c'est très émouvant en même temps, c'est des histoires, voilà. Et puis, oh, bah, on a un drame fantastique aussi, français, L'Angle Mort. Alors, L'Angle Mort, c'est l'histoire de Dominique Brasson, qui a le pouvoir de se rendre invisible. Il ne s'en sert pas beaucoup. À quoi bon, d'ailleurs ? Il a fait de son pouvoir un secret vaguement honteux qu'il dissimule même à sa fiancée, Vivica. Et puis vient un jour où le pouvoir se détraque et échappe à son contrôle, en bouleversant sa vie, ses amitiés, ses amours. Étrange, hein, étrange film. C'est un film de Patrick, enfin ils sont deux co-réalisateurs, Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic. Alors Patrick Mario Bernard, c'est un réalisateur, scénariste, compositeur. Il a également composé la musique du film. Il a 58 ans, il a déjà eu un prix. Et Patrick Trividic est un acteur, réalisateur, scénariste français de 72 ans. Et le film a une nomination à la CID Cannes en 2019. Voilà. C'est titré magistral, superbement incarné. On a Jean-Christophe Folli, c'est Dominique, l'invisible. On a Isabelle Carré, c'est la fiancée, Viveca. Et on a également dans les rôles principaux Golshifteh Farahani. J'ai inversé, je crois. C'est Golshifteh. Golshifteh, pas Fichteh, voilà, j'ai inversé. C'est
Golshifteh.
Ouais, c'est Golshifteh. Farahani, qui est ravissante d'ailleurs. Hein, qui est, oula. Et puis on a le comte de Bouderbala. Bouderbala, le comte, il a 40 ans, lui. C'est un acteur franco-algérien. Mais on le connaît, hein, son vrai nom, en fait, c'est Sami Ameziane. On l'a déjà vu. Hein, il est apparu dans pas mal de films, en fait. Il a toujours des seconds rôles assez sympathiques. Hein, le comte de Bouderbala. Et on a Claudia Tagbo aussi dans les rôles principaux. On la connaît, Claudia Tagbo. Hein. On connaît, en tout cas, on connaît au moins son spectacle, si on ne la connaît pas comme comédienne. Voilà, c'était, je voulais le dire. Mais c'est un film, c'est assez étrange. Hein, si on pouvait se rendre invisible, mais chérie, qu'est-ce qu'on ferait, nous? Moi, je ferais des trucs. Tu ferais rien, toi, Damien?
C'est possible.
Moi, ça ne me gênerait pas, je ferais des trucs. Mais des trucs sympas, bien sûr, hein, pas des voyouseries, là, hein, pas des méchancetés. Mais peut-être des trucs sympas. Arranger des affaires pour les autres, des trucs comme ça, je sais pas. Tout ce qu'on peut faire, sauf que l'hiver, il fait froid quand même, hein, quand on est invisible. Il faut pas aller dans les montagnes, il faut rester dans le sud-ouest. Voilà, écoutez mes chéris, si ça vous tente, est-ce que je vous ai dit que ça durait 1h44, je sais pas, non, je l'ai peut-être pas dit. Ensuite, j'ai un drame mexicain, je l'ai mis de côté parce que je trouvais que c'était intéressant, ça s'appelle « La bonne réputation ». C'est un film d'Alejandra, je crois qu'on dit, hein, Alejandra Marquez Abela, qui est une réalisatrice scénariste mexicaine. C'est l'histoire de Sofia. Sofia est en bonne place dans la haute bourgeoisie locale en ce début des années 80. Elle mène une vie de luxe et d'oisiveté que permet la rente de la société de son mari, lui-même héritier. Lorsque la crise économique frappe, les affaires périclitent brutalement et emportent avec elles son univers d'apparat déconnecté des réalités. Face à la réalité d'une chute imminente, elle fera tout pour sauver les apparences. Et oui, plus dure sera la chute, hein, quand on a beaucoup, beaucoup d'argent et que tout d'un coup, on n'en a plus. Je ne sais pas ce que ça fait parce que je n'ai jamais été dans la première catégorie, mais ça doit quand même être assez terrible à vivre, ça dure 1h39, alors on a dans les rôles, on a une actrice mexicaine qui est tout à fait très connue chez elle d'ailleurs, ça marche très bien pour elle, Ilse Salas, c'est Sofia. On a Cassandra Giangerotti, c'est aussi une actrice mexicaine. Il n'y a que des acteurs mexicains d'ailleurs, je devrais le dire tout de suite, comme ça. On a Paulina Gaitan et Johanna Murillo et Flavio Medina. Des acteurs mexicains. En fait, ils sont connus chez eux, donc c'est un casting d'actrices connues quand même, là-bas au Mexique. Je trouvais que c'était intéressant. Voilà, je voulais en parler, 1h39, j'ai dit, non ? Et puis j'avais aussi un biopic, drame américain, ça s'appelle Queens. Rien à voir avec le Queen, hein. C'est pas du tout le groupe. Hein. C'est un groupe, oui, mais pas de chanteur. Avertissement, il y a un avertissement, hein, des propos, des images, des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Oui, là c'est clair. C'est un film de Lauren Scafaria, qui est une actrice, réalisatrice, scénariste américaine. Elle a 41 ans. On a Jennifer Lopez, on la connaît Jennifer Lopez, qui dans ce film. On a Constance Wu. Vu, je ne savais pas si on disait vous ou vu. Ouais, bon, Constance Wu. Elle est d'origine japonaise. Donc, je ne sais pas, c'est vous. Je crois qu'on dit vous, non ? Je ne sais plus. Lily Reinhart et Julia Stiles dans les rôles principaux. Alors, le film est inspiré de l'histoire vraie d'un groupe de stripteaseuses arnaquant leurs riches clients, relaté dans un article écrit par la journaliste Jessica Pressler, paru dans le magazine New York. Et oui, c'est une histoire vraie, et oui, qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs à l'époque. Le casting principal de Queens comprend plusieurs artistes issus de la scène musicale, comme par exemple la célèbre chanteuse de R&B Jennifer Lopez, on la connaît c'est sûr, les rappeuses également Cardi B et Lizzo, et la chanteuse R&B Keke Palmer. Voilà. Moi, j'en connaissais une. Non, Cardi B, ça me disait quelque chose, Cardi B.
Lizzo aussi, on a entendu beaucoup parler cette
été. Lizzo. Alors, ben, la rappeuse Cardi B, d'ailleurs, elle a été stripteaseuse dans la réalité. Donc, elle connaissait, pour le rôle, c'était impeccable. Elle connaissait bien ce qu'était cette vie terrible. L'actrice Julia Stiles, là, qui joue le rôle d'Elisabeth, est une journaliste dans le film. Hein. C'est une journaliste qui raconte l'histoire de ces femmes à travers des interviews de Destiny et Ramona, qui sont Jennifer Lopez et Constance Wu. Et donc, elle nous permet de prendre conscience que de ce que ces femmes ont accompli. Voilà. Et nous dire que c'est bien réel. C'est ça, surtout. Et ce qu'elle voulait, elle, faire passer, c'était qu'on se rende compte que ce qu'elles ont fait, ces femmes, et ce qu'elles ont vécu, est bien réel. C'est ça. Ça se passe comme ça. Voilà. C'est donc... dans le film, il y a cette journaliste. J'ai trouvé que c'était intéressant, quand même. 1h47. Bon, ben, pour les fans de Jennifer Lopez... Hein. Jennifer Lopez. Oui, c'était, ouais, d'accord. Enfin, pour les fans, voilà, elle est, ma foi, elle est très belle dans le film, hein, d'ailleurs.
Elle se conserve bien, quoi.
Ah, elle est quand même, elle est pas mal, oui. Enfin, moi, je préfère, il n'y a pas de garçon. Ah bon, tant pis, il n'y a pas de garçon. Et puis, on va finir par un drame italien-français. Martin Eden, ben c'est qui Martin Eden ? À Naples, au cours du XXe siècle, le parcours initiatique de Martin Eden. C'est un jeune marin prolétaire, individualiste, dans une époque traversée par la montée des grands mouvements politiques. Alors qu'il conquiert l'amour et le monde d'une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et la culture, il est rongé par le sentiment d'avoir trahi ses origines. Et c'est un film de Pietro Marcello, qui est un réalisateur scénariste, directeur de la photographie italien. Il a 43 ans, il a déjà eu un prix en 2014 à Locarno. Et puis là, il a 3 nominations à la Mostra de Venise. En fait, Martin Eden, c'est une libre adaptation du célèbre roman de Jack London, paru en 1909. Eh oui, Martin Eden, c'est le même titre, hein, le roman de Martin Eden de Jack London. Jack London, c'est un écrivain américain, on le connaît quand même. Hein. Il est mort à 40 ans, lui, Jack London. Il a été très malheureux, ça a été un enfant malheureux, un ado malheureux et un adulte malheureux. Eh oui, voilà pourquoi il est parti à 40 ans. Le malheur, hein, ça... Eh oui. Quelquefois, ça fait mourir. Alors là, on a Martin Eden, c'est joué par Luca Marinelli. Et puis Elena Orsini, c'est Jessica Cressy qui joue le rôle. Non, pour rappeler Jack London, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, c'est un écrivain à Cro-Blanc.
Oui,
L'appel de la forêt, Le cabaret de la dernière chance. Il a quand même écrit, cet homme-là, plus de 200 nouvelles, dont 175 ont été publiées de son vivant, ce qui est quand même très rare. À l'époque surtout. À l'époque, hein, parce qu'il était né en 1876, mort en 1916, et il a produit ses bouquins entre 1908-9 et 1914. Quoi. Donc c'est quand même pour l'époque qu'il y en ait 175 publiés de son vivant, c'était très beau. Voilà, j'insiste un peu sur lui parce que je l'aime beaucoup. Ouais. Alors, ça dure 2h08, Martin Eden. Et je trouvais que c'était un film intéressant à voir, Martin Eden. En fait, le réalisateur nous dit que Martin Eden, ça raconte l'histoire de ceux qui ne se sont pas formés dans la famille ou à l'école, mais à travers la culture rencontrée en chemin, ce qui est le cas de Jack London d'ailleurs. Martin Eden, on termine là-dessus.
Très bien.
Sur notre Martin Eden. Et oui, donc on va se quitter. Oh là là, c'est toujours très triste de se quitter comme ça. Mais il faut bien, hein, il faut bien. Mais écoutez, mes chéris, en tout cas, merci de nous avoir reçus encore une fois chez vous. Voilà, sinon, si vous n'étiez pas chez vous, vous avez les podcasts pour écouter vos émissions. Pas que l'émission sur le cinéma, je parle de toutes les émissions de Radio Entre-deux-Mers.
Sur le www.rdm.com.
Évidemment. Toutes les émissions, il y en a de très intéressantes. Il y a des passages de musique aussi qui sont formidables et tout. Donc il y a plein de choses à écouter sur Radio Entre-deux-Mers. Franchement quoi. Bon moi j'écoute hein, Radio Entre-deux-Mers, donc c'est pour ça hein, que je suis un peu chauvine, forcément. Voilà, j'écoute même dans la voiture. C'est vrai.
Et on a plein d'auditeurs qui nous écoutent dans les tracteurs et on les salue encore.
Ah ben bien sûr.
Cette fin de vendange et début de moisson.
Bien sûr, et j'ai des copines moi qui écoutent dans leur voiture. Parce que quand elles vont travailler, ou quand elles reviennent, ou quand elles vont faire des courses, qu'elles n'ont pas le temps d'écouter chez elles, elles écoutent dans la voiture. Et ben voilà, c'est sympa.
C'est l'avantage de la radio, on peut
c'est
écouter
de la radio.
N'importe où.
Voilà, exactement. Et les podcasts, c'est l'avantage aussi d'avoir raté des émissions et de pouvoir les retrouver, malgré tout. Bon, ben en tout cas, prenez bien soin de vous, hein, petit chéri, c'est sûr. Toi aussi, Damien, hein, prends bien
oui,
soin de toi.
Toi aussi.
Merci pour tes bandes annonces. Merci pour ton soutien. Quand j'avale les mots ou quand je me trompe dans les noms, merci. Hein. Quand j'inverse les P, les V, les L, ce n'est rien du tout. Bon, ben voilà, écoutez, en tout cas, en attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma, dans les cinémas de proximité. Vous savez, je vous le dis quand même assez souvent. Et puis n'oubliez surtout pas, et là je vous le dis à chaque fois, que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.